Voilà sur Ondes Noires pour quelques romans, cette fois des nouveautés que nous vous recommandons fortement pour cet été. Jacques.
Donc on va commencer cette deuxième partie par un roman de Christopher Moore qui s'appelle Sacré Bleu, qui est paru aux éditions des Équateurs et qui est traduit par Luc Baranger, le traducteur attitré de Christopher Moore. Enfin, le retour de Christopher Moore, pourrais-je dire. Vous savez, à Ondes Noires, nous sommes des fans de cet auteur américain. Son Lézard Lubrique de Mélancolikov fait partie de notre top 10. Et son histoire de Jésus adolescent dans l'agneau aussi. Mais ces histoires de jeunes vampires à San Francisco, ces derniers romans traduits donc, datent tout de même de 2008-2009. Et voici donc, grâce aux éditions des Équateurs, on va pouvoir se régaler, et c'est vraiment se régaler, d'un nouveau Christopher Moore. On change totalement d'époque et de pays, puisqu'on se retrouve en France, à la fin du 19e siècle. Le roman commence par le meurtre de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Oui, je sais. Vous allez me dire, Van Gogh, il s'est pas fait assassiner, il s'est suicidé. Eh bien, non, d'après Christopher Moore, ni d'ailleurs pour les amis peintres parisiens de l'époque, donc devant les copains de Van Gogh, ni surtout, en fait, pour Toulouse-Lautrec, qui va donc tenter de retrouver cet homme petit dit l'homme aux couleurs. Littéralement, en fait, c'est le dealer de bleu de tous ces artistes, et c'est lui qui est soupçonné d'avoir tué Van Gogh. Et cet homme aux couleurs, il vend un bleu si pur, un bleu si particulier, qu'on dit qu'il ne servait dans les temps anciens qu'à peindre la robe bleue, donc, évidemment, de la Vierge Marie, et il ne servait à rien d'autre. Un bleu sacré, donc, comme le titre du roman, Sacré Bleu. Toulouse-Lautrec sera aidé par son ami, Lucien Lessard. Alors Lucien Lessard, là, c'est un personnage de fiction, il est peintre apprenti, mais c'est aussi le fameux boulanger de la butte Montmartre. Et quand on sait dans quelle misère vivaient parfois les peintres, avoir un ami boulanger, ça sert toujours au moins à avoir un peu à manger. Et dans l'enquête des deux compères, donc Lucien et Toulouse-Lautrec, on va rencontrer tour à tour Manet, Monet, Renoir, Pizarro, et même Seurat, qui, d'après Christopher Moore, ne finit jamais un tableau. Et donc Christopher Moore va nous faire un grand bond aussi, parfois, dans le passé, jusque dans le paléolithique, non pas pour retrouver un quelconque ancêtre de son lézard lubrique,
les pigments,
mais bien pour assister à la naissance des pigments, à la naissance du bleu dans une des grottes, que je ne vous dirai pas. On est donc, en fait, mais comme toujours un peu dans Christopher Moore, dans un conte fantastique, avec ses apparitions de cet homme aux couleurs à diverses époques de notre ère, et aussi cette muse, c'est toujours la même, que tous les peintres semblent avoir connue, aimée, toujours la même, mais jamais la même. Cette muse qui, sous la forme qu'il suit en 1890, est sous la forme de Juliette, c'est le modèle de Lucien, le peintre boulanger. Juliette, c'est la véritable femme fatale de ce roman noir mourien. C'est extrêmement bien documenté sur les peintres, sur l'époque. Christopher Moore fantasme un petit peu sur leur vie dans Montmartre, qui est parfois un peu onirique. Mais c'est ce que nous donne de très belles scènes dans les cabarets et les bordels de la ville. Dans certaines scènes, on retrouve toute cette loufoquerie de l'auteur américain qu'on apprécie tant. Baissez vos oreilles, ceux qui ont moins de 18 ans, il y a un âne priapique qui est assez irrésistible.
Il faudrait déjà qu'ils savent ce que ça veut dire, priapique.
Ce roman de Christopher Moore est certes un peu moins délirant que ses précédents ouvrages, mais il est par contre extrêmement bien construit, très maîtrisé, il suit sa trame sans se laisser aller à ces débordements extravagants que l'on adorait pourtant. Mais rassurez-vous, il y a toujours quelques scènes irrésistibles, inénarrables même. C'est un roman, donc, comme tout le roman de Christopher Moore, qu'on ne pourra pas manquer. En bonus, l'auteur nous explique en postface que les libertés qu'il a prises avec la réalité de la vie des peintres est bien moins grande qu'on voudrait bien le croire. Et pour mieux nous plonger dans l'univers de ces impressionnistes et des personnages du roman, puisque je dis qu'il y avait tous les peintres, en toute fin du livre, il y a une trentaine de tableaux qui sont reproduits, avec dans le texte un petit signe qui nous permet, en cours de lecture, de se reporter au susdit tableau, et donc de voir un très beau livre, Sacré Bleu, de Christopher Moore, traduit par Luc Baranger aux éditions des Équateurs.
Et donc, pour illustrer Sacré Bleu,
eh ben, j'ai trouvé très bien de mettre un petit morceau de Madrugada, extrait de leur premier album, et qui s'appelle Strange Color Blue, c'est-à-dire quelle étrange couleur bleue.
Voilà, à tout de suite.
Madrugada.
Donc, après ce petit intermède musical, moi je vais vous parler du roman qui a certainement fait parler le plus d'encre en ce printemps. C'est le dernier roman de James Ellroy qui s'appelle Perfidia, qui est sorti en mars à la collection Rivage Thriller chez Payot Rivage. C'est un roman excellemment bien traduit par Jean-Paul Gracias. De ce roman, je dirais qu'il est Borgiaque, car à l'instar de la dynastie italienne, les personnages principaux, Dudley Smith, je cite un flic d'une onctueuse brutalité, et William H. Parker, je recite, confit en dévotion, s'affrontent pour des pouvoirs illusoires en une débauche de violence, de trahison et de crime, rongés par leur culpabilité catholique, tout autant que par l'alcool, pour Parker tout du moins, mais aussi par les amphétamines, ça c'est plus Dudley Smith. Orgiaque ce roman par la débauche de personnages, les fictifs, les réels de Bette Davis à Rachmaninoff, de Hoover à Eleanor Roosevelt, par la multiplicité des histoires, Hoover, des crimes, des veuleries, de l'ensemble de ces personnages encore une fois, par la frénésie des mots, des phrases, des chapitres, qui s'alignent pour tenter de reconstituer un pan de l'histoire des États-Unis juste après l'attaque de Pearl Harbor.
En 1941.
Voilà. Une Amérique toujours aussi coupable, selon l'évangile de James Ellroy, car c'est le premier d'un quatuor et on pourrait parler d'évangile. Côté fiction, on a une famille de Japonais qui est sauvagement assassinée la veille de l'attaque des Japonais. Toujours en 1941, donc. Dudley Smith enquête, casse du Japonais. Il vaudrait mieux fabriquer des méchants pour résoudre l'affaire. En face, Parker, personnage qui a réellement existé, lui par contre, veut trouver le vrai ou les vrais coupables. Et lui, il est prêt à toutes les exactions pour parvenir à doubler Smith. Par exemple, envoyer la Blanche Colombe, enfin Blanche Colombe, pas tout à fait, elle a quelques tâches la Blanche Colombe, Kay Lake, qu'on va retrouver plus tard, Kay Lake va donc espionner le camp adverse. Et on va suivre son journal qui va nous donner une version des faits. Et cette version des faits, c'est peut-être la plus objective. Peut-être, parce que Kay Lake, elle traîne déjà quelques cadavres dans le placard. Et au milieu de tous ces monstres, en quelque sorte, il y a Hideo Ashida, un Japonais, un des premiers experts de la police scientifique, qui tente, en une enquête enflammée, de sauver sa peau et sa place dans le climat japonophobe, oui, on peut dire ça comme ça, complètement historique.
Nipponophobe,
oui, tiens, c'est joli ça. Donc, c'est complètement hystérique. Côté réalité historique...
Et historique.
Historique, James Ellroy nous montre une Amérique, qu'il nous avait déjà montré d'ailleurs, mais quelques années plus tard, une Amérique raciste, xénophobe, pourrie jusqu'à la moelle, pour combattre l'ennemi, le jaune, mais aussi le rouge, le communisme. On n'est pas loin des années du McCarthyisme, c'est juste 10 ans après. Des meurtres, des mensonges, des projets déments qui naissent dès le lendemain de la destruction de la flotte américaine. Il n'y a plus de proportion, plus de mesure. Ça, c'est une phrase d'Akira. Pearl Harbor a aboli tout ça. On organise l'arrestation de milliers de Japonais américains. On imagine leur déportation, bien sûr, mais il faut que cela rapporte aux inventeurs de l'ultra-capitalisme. Petit passage. Avant tout, ce que je propose est un rouage secondaire, inclus dans le rouage principal du plan d'internement administratif en temps de guerre conçu par le gouvernement fédéral, lequel rend nécessaire l'hébergement de centaines de milliers de suspects de Japonais dans des centres immenses sur tout le territoire de la Californie et de l'Arizona, et jusqu'au Wyoming et au Montana en montant vers le nord. On est carrément à de la déportation et à de la concentration. Quelques lignes plus tard. « Je comprends, dit Jack. » Les Japs ont la main verte, alors on les fait travailler dans leur propre ferme et dans celle de leurs voisins, ou dans les autres activités que vous avez évoquées la première fois. Je n'aime pas le terme de bonus, mais il s'applique ici. Il y a des profits potentiels pour tous ceux qui sont concernés. Nous soulageons le gouvernement fédéral d'un nombre important de Japs, ce qui bénéficie aux employés de M. Hoover. C'est à nous de gérer nos propres Japs. Et donc, nous gardons la part du lion des bénéfices réalisés. Voilà, il gagne sur tous les fronts. J'ai employé au début de cette chronique les mots orgiaque et borgiaque. Je peux aussi rajouter celle d'halluciner. Ellroy reprend les personnages de ses précédents romans pour leur inventer une jeunesse à l'époque où lui-même n'était pas encore né. 1941, il n'est pas encore en projet. C'est en gros un projet, je dirais, de démiurge, qui montre le meilleur de ce romancier américain hors norme, mais aussi, malheureusement, dans beaucoup de facettes, une folie dévastatrice qui lasse un peu parfois, qui lasse par une démesure du dérécit, et puis par la violence des propos, parfois un petit peu outrés, parfois un petit peu inutiles. Ceci dit, c'est quand même une lecture à la fois indispensable et à la fois étonnante. Donc je rappelle, Perfidia. Alors Perfidia, c'est le titre d'un morceau de jazz de Glenn Miller. C'est peut-être juste ces quelques notes qui apportent un petit peu d'apaisement et un petit peu de douceur dans ce monde de brut qui est Perfidia de James Ellroy. Donc je rappelle, traduit par Jean-Paul Gracias à chez Rivage Thriller.
On enchaîne tout de suite avec, pour finir cette saison, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Santa Clara, à Cuba donc, pour retrouver le commissaire Léo Martin, ou Léo Martin, bon, ça sera mieux, qui est le flic donc créé par Lorenzo Lunar. Déjà héros, c'est déjà plutôt personnage principal de La vie est un tango, qui était paru chez Asphalt, donc je n'ai pas précisé, c'est paru chez Asphalt. Ce roman est un roman de Lorenzo Lunar qui s'appelle Coupable, vous êtes. Et il est traduit comme le précédent par Morgane Leroy. La vie est un tango aurait pu être dans nos premières parties d'émission parce qu'il ressort en folio policier ces jours-ci. Donc Léo Martin, dans cette enquête, il va enquêter sur le meurtre d'un truand retrouvé près de la gare, tué à coups de marteau. Alors c'est un truand multicarte, si j'ose dire. Mais il a été malgré tout spécialisé dans la protection rémunérée de jeunes filles au charme certain qui se vendent aux caciques du pouvoir et aux riches étrangers en mal d'exotisme.
Des putes, quoi.
Des putes, et lui donc c'est un macro. Et on les appelle d'un joli nom qui s'appelle les Rinteras. Et donc évidemment c'est vers elle qu'il va orienter son enquête. Et ceux qui ont déjà lu des romans de Lorenzo Lunar savent très bien que l'auteur ou son héros, son double littéraire, aime beaucoup les femmes. Et le flic a une grande tendresse pour ces putes, ces femmes contraintes par la vie, par le régime, à se vendre pour vivre, même d'ailleurs parfois seulement pour survivre. Et il va donc en interroger quelques-unes et débusquer l'assassin. C'est un court roman de 160 pages où, par-delà l'intrigue proprement dite, Lorenzo Lunar nous raconte son Cuba, son Santa Clara et même plus précisément son quartier de Santa Clara dans lequel l'auteur vit et où il place tous ses romans, toutes ses enquêtes. C'est le pays de la débrouille, qui est carrément devenu un sport national, le quotidien de presque tout le monde, flics compris d'ailleurs. Ce pays où certains dirigeants, certains syndicalistes ont abusé des avantages de leurs fonctions, quitte à contourner les règles pourtant égalitaires prônées par le parti. C'est un coin de ville où la chaleur pousse à la consommation d'alcool de plus ou moins bonne qualité, où le sexe semble être la préoccupation principale de beaucoup de monde. Quand il n'y a pas grand-chose, il y a toujours ça qui te reste. Et puis, il y a surtout cette façon de parler des putes, de les raconter, de les décrire, de nous les montrer encore plus belles que nature. Ce flic, Léo Martin, me fait parfois penser à l'inspecteur Mendez de Francisco González Ledesma, une espèce de version latino-américaine du flic catalan. Ils ont un peu la même façon de déambuler dans leur quartier, où ils connaissent tout le monde et où tout le monde les connaît. Et ces deux auteurs ont autant d'empathie pour le genre humain et puis pour les femmes, malgré tous les salopards qu'ils ont dû affronter dans leur propre vie ou dans la vie de leur héros.
Voilà, donc un roman qui t'a beaucoup touché.
Qui m'a beaucoup touché. Donc Lorenzo Lunar, Coupable vous êtes, c'est le titre, c'est l'extrait d'un boléro célèbre là-bas, et donc publié par les éditions Asphalt et traduit par Morgane Leroy.
Eh bien voilà, il est temps de nous quitter, donc de vous souhaiter un été très ensoleillé, très lumineux, mais aussi avec quelques beaux côtés noirs, avec les romans que nous avons recommandés, ou plein d'autres. Courez chez votre libraire, il est climatisé. Voilà, on va vous laisser pour un long moment, chacun dans son coin avec un bon bouquin. Au revoir Jacques.
Ou quelques bouquins. Au revoir Corinne, au revoir à tous.